Chapitre 13. Lucas Nadler abattra toutes les balances. Henry Adams et John Hay s'étaient tous les deux fait installer le téléphone. Hay se servait énormément du sien, surtout dans l'exercice de ses fonctions au département d'État. Adams, au contraire, n'aimait pas beaucoup ce mode de communication, sauf pour deviser avec John Hay dans la maison contiguë. Ce qui revenait à se parler à travers deux murs, et vu l'abondance de grésillements et de parasites, il aurait probablement été plus facile d'ouvrir la fenêtre et de hausser un peu la voix.
« Vous cherchez surtout à vous défiler du dîner de ce soir, Henry, il me semble !»
protesta Hay après avoir écouté les excuses d'Adams pendant une minute. Il était déjà assez tard dans l'après-midi du samedi.
« Eh bien, il m'a semblé ne pas avoir été essentiel à notre dernière soirée, » soupira Adams. Les convives perpétuellement déprimés n'ont pas leur place dans les réceptions inévitablement gaies de la haute société.
« Ce raisonnement exclurait d'emblée 93% d'entre nous !» s'amusa Hay.
« Ce qui améliorerait la qualité de la conversation d'une manière exponentielle. »«
Très vrai, Henry, très vrai. Mais je vous en prie, venez ce soir. Nous serons entre hommes et le dîner sera simple. »«
Que sont devenues ces charmantes dames et votre ravissante fille Hélène ?»
Nanny Lodge, Hélène, Clara et Edith Roosevelt, qui est brièvement venue rejoindre son mari en ville, se sont toutes engagées à aller servir le café au buffet de gala des filles de la Révolution américaine organisé en soutien à nos vétérans de la guerre de Sécession.
Et où le banquet a-t-il lieu cette année ?
Dans la rotonde du Capitole.
Dans ce cas, soit elles vont geler, soit elles vont rôtir.
Les deux, probablement.
Lizzie Cameron va-t-elle aussi servir du café au vieux donateur gâteux ?
Non, ce soir elle va à l'opéra.
Avec Don ?
Hay rit.
Depuis quand Lizzie attend-elle que son mari veuille bien l'accompagner à un événement culturel pour sortir ?
Avec qui alors ?
Son cousin, machin chose. Le vénérable vieillard qui nous a tous endormis à la grande réception des Vanderbilt en novembre dernier.
Vous avez bien dit qu'Edith Roosevelt participait au gala ?
Ce qui me laisse supposer que le gamin sera à votre dîner. Vous songez vraiment à jeter de nouveau dans l'arène Harry et Teddy ?
Le gamin déteste son diminutif d'enfant. Évitons de l'appeler Teddy.
Il déteste aussi que nous l'appelions le gamin. Il ne le supporte que parce qu'il nous aime.
Vous tenez vraiment à les revoir si vite à votre table, hey ?
Teddy s'en veut terriblement de s'être conduit comme un rustre à notre dernier dîner.
Ce fut au tour d'Adams de rire.
Je n'ai jamais vu Theodore Roosevelt faire amende honorable, ni regretter quoi que ce soit. Surtout pas les victimes semées sur son passage.
Très vrai! Mais Edith lui a probablement fait comprendre que des mots tels que efféminé et lâche n'étaient pas bien choisis pour s'adresser à l'un des plus grands hommes de lettres d'Amérique.
« Cela aurait été plus drôle il y a 50 ans, ou même 30 », remarqua Adams. « Ils auraient déjà choisi les témoins, le terrain et huilé les pistolets pour le duel. »«
Je verrais plutôt Harry laver son honneur à la pointe de l'épée, et c'est lui qui aurait eu le choix des armes. »«
Ce qui irait bien avec son esprit au tranchant effilé. »«
Mais je vous assure que Teddy est réellement désolé et qu'il m'a supplié de lui donner une chance de nous montrer qu'il sait se comporter correctement. » Il tient à vous avoir pour témoin de sa bonne conduite,
ajouta Hay.
Comme c'est déjà arrivé vers 1873 ou 1874.
Sérieusement, Henry, nous serons entre nous ce soir. Nous pourrons discuter politique, en toute civilité bien entendu, nous gratter, rôter si l'envie nous en prend, jurer comme des soudards, boire comme des soudards, porter des toasts à la santé du beau sexe absent et rouler sous la table. J'ai invité le docteur Granger parce que... Ouais, eh bien, vous savez pourquoi.
Adams le savait en effet. Le docteur Elias Granger était plus âgé qu'eux, ayant dépassé les 60 ans, et fortement endeuillé par la mort de sa femme, disparue 4 ans plus tôt. On pouvait espérer que dans un environnement exclusivement masculin, il retrouverait plus facilement la joie et la bonne humeur qui le caractérisaient autrefois. Dans les réunions mixtes, il ouvrait à peine la bouche comme s'il avait peur de peiner la défunte en parlant à une femme. Après 7 ans de veuvage, Adams était bien placé pour le comprendre. S'il n'avait autant apprécié Lizzie Cameron et dans une moindre mesure Nanny Cabot Lodge, il n'aurait pas accepté les invitations à dîner non plus, du moins quand les épouses étaient présentes. Le temps ayant passé, Il avait non seulement repris ses activités mondaines, mais aussi l'organisation des fameux petits déjeuners, plus proches de midi que du début de matinée, où il conviait Lizzie, Nanny et de nombreuses autres beautés washingtoniennes.
« Eh bien, c'est tentant et j'apprécie beaucoup notre vieil ami Granger, »
concéda Adams.
« Mais avant de vous laisser poursuivre, »
interrompit John Hay,
« je veux ajouter que Clarence King sera là en plus grande forme que jamais. »«
King !» s'exclama Adams.
« Je croyais qu'il était parti pour le Mexique ou le Chili ou la Patagonie. » En tout cas, dans une de ces destinations riches en belles dames exotiques qu'il préfère. Je le pensais aussi, Henri, mais il est brièvement de retour et a accepté de dîner avec nous.
Qui d'autre y aura-t-il?
Teddy et James, bien sûr. King, Rudyard Kipling, qui fait des infidélités à son Cosmos Club.
Oh, je viendrai volontiers pour le seul plaisir d'entendre Kipling raconter une histoire. Mais chaque fois que Teddy est là, Rudyard ouvre de grands yeux énamourés et ne dit plus un mot pour l'écouter.
« C'est l'hommage d'un grand conteur à un autre »,
approuva Hay.
« Cameron était pris, mais Cabot Lodge sera de nouveau des nôtres. »
« Et ce l'est pendant que sa femme reçoit les donateurs sous le grand dôme », commenta Adams.
« Exactement. Quant à Harry... Vous ai-je dit qu'il était revenu vivre chez nous pour la fin de son séjour à Washington ?»«
Non, » marmonna Adams. « Je ne le savais pas. » »«
Ce qui complétera la liste des invités. »
Adams s'éclaircit la gorge et posa la question qui lui brûlait les lèvres.
« Alors, Monsieur Holmes ne sera pas là cette fois ?»
Sans paraître remarquer sa gêne, Hay répondit simplement
« Holmes, non, figurez-vous qu'il a disparu. » Il est sans doute rentré en Angleterre. En tout cas, il n'est plus là et j'avoue que cela me soulage de ne pas avoir à l'inviter.
Pourquoi cela?
Parce que ma fille Hélène s'en est entichée. Elle m'a demandé l'autre jour si un détective gagnait suffisamment bien sa vie pour faire vivre son épouse dans le confort auquel elle est habituée. Elle a aussi voulu savoir s'il arrivait que des grands détectives soient anoblis par la reine Victoria.
Seigneur, j'imagine qu'elle n'a pas dit cela aussi clairement.
Je n'ai eu aucune difficulté à le comprendre, mon cher. Ah, j'oubliais. Saint Gaudens sera là aussi, mais il devra nous quitter tôt, avant le cognac et les cigares. Il doit sculpter une femme de sénateur.
Elle pose la nuit?
Oui, dès que le sénateur est en déplacement.
Eh bien, je peux difficilement refuser s'il y a Kipling, notre cher Clarence King, Saint Gaudens, Cabot Lodge, son Nanny. Il parle rarement à table quand Nanny est là, mais il ne manque pas d'esprit quand nous sommes entre hommes. Et puis une place au premier rang pour le deuxième round entre le gamin et Harry. C'est bon, je viendrai.
Dans la joie et la bonne humeur?
Je pourrais me convaincre de mettre mon bonnet d'amuseur après la quatrième bouteille.
Alors tâchez de faire diversion au cas où le jeune Théodore oublierait ses bonnes résolutions. On ne sait jamais.
Ricana Hay. Ils riaient encore tous les deux en raccrochant. Le coup de carabine, bien que tiré 20 mètres plus bas, assourdit James. Le souffle fit tressauter le faux plafond et voler des plumes de poulet tout autour de lui. La poutre sur laquelle il était allongé, bien qu'épaisse, vibra, touchée par une volée de plomb. James avait eu beau se faire le plus compact possible en épousant la forme rectiligne de son support, il devait dépasser encore un peu sur les côtés, car il sentit un projectile déchirer sa manche gauche et égratigner son bras. Il serra les dents pour se retenir de pousser un cri.
« Raté !»
cria un gangster en bas.
« Regardez ! À moi !»
Deux coups de feu rapides, mais un claquement plus net et plus agressif. James sentit l'impact d'au moins l'une des deux balles dans sa poutre, à un mètre ou deux devant lui. La poutre fut secouée comme un arbre qui reçoit le premier coup de hache.
« Je l'ai eu !»
cria la même voix. L'assistance poussa des hurrahs. James osa jeter un coup d'œil en bas. Tous, sauf les anarchistes, avaient quitté leur siège et formaient un grand cercle, se tapant dans le dos en riant, la séparation entre gangs rivaux oubliée. Un homme armé d'un fusil brandissait un gros ramor par la queue et tournait sur lui-même pour se faire applaudir de ses comparses criminels.
« Silence !»
La voix de Moriarty s'éleva avec une telle force et une telle autorité que Henry James faillit perdre l'équilibre et dégringoler de son perchoir.
« Grogan va passer voir vos chefs dans les semaines qui viennent, avec des instructions précises pour l'opération du 1er mai. Il leur dira les armes à prendre, sachant qu'une partie sera fournie. Quelles zones vous sont attribuées pour la liquidation de la police?
Il vous donnera vos positions précises dans les embuscades et des informations sur les lieux où les anards, veuillez m'excuser, les socialistes auront déposé leurs bombes. Nous en avons terminé pour ce soir. Prenez soin de partir par petits groupes en vous dispersant au plus vite pour rentrer dans vos quartiers et rejoindre vos bars habituels. Il faut éviter que les flics vous ramassent ce soir et surtout pas en groupe. Lucas Nadler abattra toutes les balances et je veillerai à ce que les mouchards ne soient en sécurité nulle part, même pas sous protection au quartier général de la police. James déplaça de nouveau la tête pour apercevoir Moriarty, mais Grogan, le gangster à chapeau melon qui l'accompagnait, était maintenant seul sur l'estrade. Moriarty s'était éclipsé. James resta allongé sur sa poutre, de plus en plus ankylosé et endolori. Il attendit néanmoins qu'anarchistes et bandits soient sortis de l'entrepôt et aient disparu dans la nuit. Grogan fut le dernier à partir. Il referma derrière lui après avoir éteint les lumières, mais James patienta encore une heure, souffrant de plus en plus du bras gauche et guettant les galopades des rats dans la charpente autour de lui. Sa plus grande crainte était d'entendre des pas dans l'escalier. Il avait réussi à replacer le panneau derrière lui, mais toute personne montant jusqu'au dernier étage rallumerait la lampe à gaz, risquait de voir que la trappe n'était plus bloquée et de l'ouvrir dans son dos. Au bout d'un long moment, n'y tenant plus, James recula en rampant le long de la poutre jusqu'à ce que ses semelles touchent le panneau. Il poussa avec le pied tout doucement, tâchant d'ouvrir la trappe sans faire trop de bruit. Une fois qu'il se fut faufilé sur le palier noir d'encre, il entreprit de se remettre sur pied. Endolori, à moitié paralysé, il dut s'appuyer au mur et ne se redressa que lentement. Il attendit un peu pour permettre au sang de circuler avant de tenter de se déplacer. Ses genoux et son dos étaient encore plus douloureux que son bras blessé. Il tâta sa manche pour examiner les dégâts et sentit à travers sa chemise déchirée qu'il ne s'agissait que d'une éraflure. Aucune lumière ne passait plus par la porte vitrée. Était-il resté si longtemps sur sa poutre que la nuit était tombée? Il songea à remonter la flamme de l'applique à gaz, mais se ravisa. Si quelqu'un faisait le guet en bas, cette lumière trahirait sa présence et ferait de lui une cible parfaite. Il reprit son chapeau et sa canne qu'il avait laissé par terre. Connaissant la raideur et l'étroitesse de l'escalier, James descendit prudemment, se tenant d'un côté au mur lépreux et s'aidant de l'autre de sa canne pour trouver les marches. Il s'attendait à se faire agresser à chaque étage. Mais la flamme tremblante des becs de gaz lui révélait chaque fois des paliers vides. Arrivé en bas, il s'arrêta devant la porte et eut besoin d'une ou deux minutes pour trouver le courage de la pousser. Une pensée terrible l'obligea à s'appuyer au mur. Et si la porte avait été fermée à clé? Si j'étais enfermé? Elle s'ouvrit. Il sortit dans le crépuscule. Le cul-de-sac était désert. Il n'y avait qu'une cinquantaine de pas de l'entrepôt à la rue, mais il avait si peur qu'on le surprenne qu'il eut l'impression de marcher 500 mètres. Au bout, il tourna à droite, tâchant de se souvenir de la direction générale des quartiers plus sûrs. Il y avait du monde dans la rue, toujours des hommes, mais pour la plupart regroupés devant les rares saloons éclairés. James slaloma entre ces établissements, changeant non pas de trottoir puisqu'il n'y en avait pas, mais au moins de côté. En évitant le milieu de la ruelle boueuse, il y avait aussi moins de crottins de cheval là où il mettait les pieds. Tout en se hâtant, James s'étonnait d'avoir été aussi proche de ce ramassis de voleurs, de cambrioleurs, de violeurs, de pyromanes et du professeur James Moriarty. Il avait eu peur, certes, surtout quand avait fusé l'alerte aura et que les balles avaient sifflé autour de lui, mais au-delà de cette peur, il avait éprouvé un sentiment inattendu, une sorte d'euphorie, une joie étrange et inexplicable. Était-ce l'attrait du danger, de la nouveauté? Il se demanda si ce cœur battant, cette impression que le temps s'arrêtait, n'était pas ce qu'il aurait éprouvé à la guerre s'il n'avait évité le service armé. Son frère Wilkie avait-il ressenti cette ivresse du danger avant d'être grièvement blessé? Comment expliquer autrement l'empressement qu'avait montré Wilkie à retourner se battre avec son unité quelques mois seulement après la guérison de ses terribles blessures? Son frère Bob prétendait aussi avoir gardé un bon souvenir de son service pendant la guerre de Sécession. La toute récente expérience de James pouvait-elle se comparer à cette euphorie que ses frères avaient décrite, la passion de l'action? James pensa à son cousin Gus, le rouquin dont il avait vu le beau corps blanc dénudé dans l'atelier le jour du cours de dessin. Gus avait-il connu cette même excitation extrême avant d'être tué par un tireur isolé? Son corps n'avait jamais été retrouvé.
Gus avait-il entendu le bruit du coup de feu qui avait fauché sa jeune vie? Les anciens combattants affirmaient qu'on n'entendait jamais la détonation d'un tir immédiatement fatal, car la science avait prouvé que la vélocité de la balle était supérieure à celle du son. Mais James avait parfaitement entendu le tir de carabine juste avant que la poutre ne se mette à vibrer comme une cloche. Et il avait trouvé cela grisant. Il marcha longtemps, des heures lui sembla-t-il, dans les dernières lueurs du jour. Ne se fiant plus à son sens de l'orientation, il prit pour cap les lueurs de la ville qui se reflétaient sur les nuages bas. Par là, il trouverait des réverbères et la civilisation. Plusieurs fois, des hommes se détachèrent des groupes et traversèrent pour aller vers lui. Chaque fois, James pensa « voilà, c'est la fin », mais aucun d'entre eux ne l'aborda. Personne ne le sollicita, mis à part une belle de nuit outrageusement maquillée et dont le lieu de travail devait se trouver dans une ruelle malpropre qu'il croisa où s'alignaient des stands aux parois de toile. Elle avait les joues barbouillées de rouge et des dents jaunes qui ressortirent dans l'extrême pâleur de son visage quand elle lui dit « alors, tu viens, chérie ». James lui répondit d'un vague signe et se dépêcha de traverser. Il atteignit enfin une rue pavée. Des rails de tramway couraient au milieu de la chaussée, des réverbères éclairaient les coins de rue. Il poussa un soupir de soulagement. Il avait quitté les quartiers défavorisés. Juste à l'instant où il se félicitait, trois hommes surgirent d'une ruelle et lui coupèrent le passage.
« Alors, mon gars, on s'est perdu ?»
demanda le plus grand, crasseux et barbu. Le deuxième homme, également grand mais plus lourd, arborait des favoris. James avait perçu l'éclat d'une dent en or quand le premier s'était adressé à lui. Ils portaient tous deux des feutres à bord large, salis de sueur, incrustés de poussière et mangés au mythe. Le troisième homme en était à peine un. C'était un garçon de 16 ou 17 ans, presque aussi grand que ses deux amis, mais beaucoup plus maigre. Le visage de cet adolescent était dévoré par son nez et une longue frange grasse lui tombait sur les yeux. Ses dents proéminentes rappelaient celles du rat abattu dans l'entrepôt.
« Laissez-moi passer, je vous prie »,
dit James en faisant un pas vers le barbu à la dent d'or. L'homme s'écarta, mais son gros acolyte se mit aussitôt en travers du chemin de l'écrivain. James était encerclé. Il regarda autour de lui pour essayer d'apercevoir un agent, mais ne vit personne, pas même des passants ordinaires, aucun homme honnête susceptible de se porter à son secours.
« Pas mal, les guêtres »,
remarqua le chef. Pour ponctuer sa phrase, il se racla la gorge et envoya un gros crachat de jus de tabac sur le pied gauche de James. Le deuxième homme avança la main vers sa manche déchirée.
« Tu saignes, mon vieux. Bien, on va te mettre un pansement. »
James tenta de se dégager par la gauche en descendant sur la chaussée, mais le premier homme le bloqua. Le cercle se resserrait et James comprit qu'il voulait l'obliger à reculer dans l'ombre de la ruelle d'où ils étaient sortis. Il ne fit plus un pas. Leur chef approcha si près que James sentit son haleine chargée d'ail et de whisky. Il lui fit les poches en finissant par le gilet.
« Putain, des guêtres, un haut de forme et une canne en argent, mais pas de montre! Elle est où, putain ?»«
Je l'ai perdue, »
dit James.
« Bon à rien, »
ragea le second.
« Et ton portefeuille? Tu l'as perdu aussi, ton portefeuille ?»
James se redressa de toute sa taille, sa main droite se serrant autour de sa canne tout en sachant qu'il n'aurait pas le temps de la lever pour se défendre. Il sentit une pointe dure appuyée sur son ventre et vit que le plus jeune tenait un couteau.
« James !»
cria une voix familière venant de l'autre côté de la rue. James et les trois voleurs tournèrent la tête dans un bel ensemble. James retint un rire nerveux, en voyant venir à la rescousse les deux hommes qu'il aurait le moins imaginé rencontrer. C'était Theodore Roosevelt accompagné de Clarence King, ce dernier un peu mieux vêtu que la dernière fois qu'il s'était vu. Alors que les deux hommes traversaient vers eux, le chef barbu, qui mesurait bien 1m85, considéra le 1m75 de Roosevelt et la plus petite taille encore de King.
« Je vous parie une bouteille qu'ils ont des montres, ces deux-là, » dit-il.
« Pas pour longtemps, »
ricana son athlétique et crasseux partenaire.